Vous écoutez RTL.
Je sais pas pour vous, Sidonie, mais moi je commence à être un peu à la saturation des chants de Noël.
Ah, mais je m'en lasse pas.
Oui, oui, mais
je m'en
bon,
écoute même en plein été.
André
Fassetta,
il va peut-être falloir varier un peu les plaisirs comme ça, notre réalisateur. En tout cas, vous êtes en train de peut-être de vous demander ce que vous allez cuisiner pour
le rayon. Ah, ça, par contre, hein, pensez à manger, c'est bien votre truc.
Mais
ça.
Oui, quel produit choisir, les huîtres, le foie gras, la dinde, les trois à la fois. Bah oui, on est gourmand. On va vous aider à composer le repas gourmand à la française grâce à notre invitée Marie-Hélène Bellac. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, passionné de cuisine, vous publiez un livre hommage à la gourmandise aux éditions Omnibus. C'est un défaut, ou plutôt une qualité bien française.
Une qualité, une belle qualité. D'ailleurs, le repas gastronomique des Français a été reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mmh. Donc, ça prouve que c'est une qualité.
Donc, la gourmandise, c'est bien une qualité. On va s'installer à table, là, on a du temps, pour un bon moment. Alors, forcément, on va commencer par l'apéritif. Et alors, ici, à la curiosité, on aime bien la sémantique, l'origine des mots. Alors, il vient d'où, ce mot ?
Apérire, en latin, ça veut dire ouvrir. Il s'agit d'ouvrir l'appétit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France en tout cas, on n'aurait pas eu l'idée de faire passer ses invités à table sans leur avoir offert auparavant un apéritif.
Et ce mot, l'apéritif, est utilisé à partir de quand ?
Alors, assez tardivement, c'est-à-dire surtout à partir du 19e siècle. Avant, on utilisait, il y avait des apéritifs, je pense à des vins notamment mélangés comme le clairé au Moyen-Âge, qui était une recette de départ taïwan. Mais c'est au 19e siècle véritablement qu'on se met à prendre l'apéritif. D'ailleurs, des industriels fabriquent des apéritifs type Dubonnet, Martini, tout le monde a entendu les pubs, ou même des boissons non alcoolisées, je pense au Schweppes ou au Coca-Cola. Et puis surtout, au 19e siècle, c'est la grande époque des cocktails. Les anglo-saxons mettent au point toutes sortes de cocktails, et là, je dirais, c'est l'imagination au pouvoir. Mais il y a une boisson, disons, plus populaire qui s'impose dans la deuxième moitié du 19e siècle en France, qui est l'absinthe.
Et d'ailleurs, elle va presque donner son nom, ou je sais pas, ou sa couleur à l'apéritif, c'est ça ?
Oui, on dira l'heure verte, parce qu'elle est verte.
Pour désigner le moment,
pour désigner le moment de l'apéritif, ouais. Puisque donc, c'est une boisson anisée, verte, qui a été mise à l'honneur en fait, un petit peu avant, au moment de la conquête de l'Algérie, parce qu'elle était réputée, enfin, elle n'était pas seulement réputée, à petite dose, elle luttait contre la malaria, contre certaines dysenteries.
Mais cet apéritif a été interdit.
Oui, il a été interdit parce qu'en fait, il était extrêmement dangereux. Il contient une substance qui donne des hallucinations, des convulsions. Et il a été totalement interdit.
À quelle époque ?
Alors, il a dû être interdit au début du XXe siècle. Je n'ai plus la date précise en tête. Il a été réautorisé récemment,
mais
avec des dosages beaucoup plus faibles.
Pour l'apéro ou pour soigner ?
Pour l'apéro.
Ah, pour l'apéro. Et pour l'apéro. Soigner un peu aussi, forcément.
Oui.
Alors, ça, effectivement, début du 20e siècle, à cette époque, et même, on va dire, à la charnière des deux siècles, 19e et 20e, on considère que le vin est un moyen de lutter contre l'alcoolisme. Alors, avec notre regard du 21e siècle, on se dit, c'est quoi cette phrase improbable ?
Et notre foi, vous voulez dire.
Voilà,
oui.
C'est ça.
Oui, oui. Eh ben, je vais vous dire, on voit des affiches dans des salles d'école, l'école de Jules Ferry, où on montre l'alcoolique ravagé, le foie dans un état épouvantable, c'est celui qui boit de l'alcool fort, type Calvados, Niol, enfin tous les alcools à plus de 40 degrés. Et à côté, au contraire, le vin, c'est ce que boit l'homme sain, parce que le vin donne de la force. D'ailleurs, au moment de la Première Guerre mondiale, vous savez que ce qu'on appelait le quart de vin, enfin on disait plutôt le pinard, était dans la ration du soldat. C'était d'ailleurs pas un quart, hein, c'était un demi.
Ouais.
Mais le vin était considéré comme une bonne boisson.
Parce que c'est moins alcoolisé que les alcools forts,
absolument,
c'est ça ?
Absolument. Et puis ça contient, on le dit aujourd'hui, hein, ça contient des substances qui peuvent être utiles si on le boit avec modération.
Oui,
on fait même des produits. Voilà. Même les produits de beauté maintenant. Hein,
partir, ah bon ?
Ah oui, à partir de la fille.
Ah bah oui, on va citer la marque.
Je vais pas citer la marque,
Caudalie,
on pas, voilà,
il y a plein de
Caudalie.
Marques de produits de beauté. On voilà, peut
mais c'est pas à base de vin rouge.
C'est le raisin, oui.
Et Pasteur d'ailleurs disait le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. C'est vrai qu'on est aussi, il y a une époque où l'eau n'était pas de bonne qualité.
Oui.
Donc boire du vin, c'était ne pas boire d'eau, c'est ça ?
Oui, d'ailleurs pendant très longtemps, on coupait toujours l'eau de vin pour cette raison. parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'eau malsaine et l'eau donnait des maladies.
Alors, pour Noël, en guise d'apéritif, on va peut-être ouvrir une bonne bouteille de champagne. On dit quoi ? On la sabre ou on la sable ?
Alors, en fait, on devrait dire ni l'un ni l'autre, parce que la sabrée, c'est la couper avec d'un coup de sabre. Donc, ce sont des choses quand même qui ne se font plus tellement. Et la sablée, c'est la boire d'un coup. Alors aujourd'hui, boire d'un seul coup, d'un trait.
On faisait ça à une époque, boire sa bouteille de champagne d'un coup.
Oui, enfin,
à la
coupère.
Bon. Ah oui, d'accord.
Alors donc, plutôt on dit maintenant, et on sable le champagne, on veut dire on ouvre une bonne bouteille pour faire la fête, et notamment pour Noël.
Alors vous publiez un repas gourmand à la française chez Omnibus, on y découvre notamment le champagne rosé. Je me suis toujours posé la question, il est fait comment ?
Ah ben le champagne rosé, c'est, j'allais dire, très simple. Vous savez que le champagne, c'est un vin d'assemblage. C'est-à-dire qu'avant de mettre en bouteille, on assemble différents vins. Et le champagne rosé, on met une petite quantité de vin rouge.
Ah oui.
Car autrefois, la champagne produisait des vins tranquilles, sans bulles et en grande partie des vins rouges.
Moi, il y a un alcool que j'adore, c'est le vin chaud.
Ah
qu'on
oui.
soit à la montagne ou pas. Mais ça a été inventé à la montagne, j'imagine, ça.
Oh, c'est beaucoup plus ancien. En fait, on trouve une recette dans Apicius, au 1er siècle de notre ère. Donc, c'est très ancien. Mais c'est vrai que le vin chaud, disons, a connu une première mode plutôt à la fin du 19e, dans les régions froides, notamment dans les régions du Nord, parce qu'il réchauffe.
Faut dire marché de Noël aussi.
Marché de Noël, oui, c'est pour ça en Alsace, en Allemagne, d'accord, dans toutes ces régions où ils sont là depuis longtemps.
C'est du vin avec des épices, c'est ça ?
Avec des épices, des écorces d'agrumes, des épices. On peut mettre un peu de sucre, il ne faut pas en mettre trop.
Bon allez, le temps passe vite, c'est déjà l'heure des entrées escargots, huîtres et foie gras. A tout de suite,
je
les gourmands.
Je prends les trois.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Dans la curiosité, on vous aide à composer votre repas de réveillon. C'est Marie-Hélène Bella qui nous guide en cuisine grâce à son livre « Un repas gourmand à la française » publié chez Omnibus.
C'est
vous avez reconnu, Thomas,
sur la musique du Père
j'allais
Noël,
vous inviter à danser.
Ah bah oui, c'est... Avec Bronson.
J'ai mis ma
Bronson,
robe.
Bronson, c'est le personnage joué par clavier, vous savez.
J'ai mis ma robe en serpillière. J'espère qu'elle vous plaît. Ce livre, vous l'avez écrit pourquoi ? Pour qu'on se régale, tout simplement.
Ah oui, tout à fait. Je suis très gourmande, très curieuse, et donc j'avais fait avant un dictionnaire gourmand, mais il n'y avait pas d'illustration. Et comme la cuisine, ça commence par l'assiette, le plat. Qu'on
les
découvre
yeux.
Les
ouais.
yeux.
Plaisir des yeux.
Donc c'est important d'avoir un livre avec de l'image.
Alors là, mon estomac et mon regard, mes yeux se dirigent vers les entrées ou plutôt les hors d'œuvre, comme on a appelé ça assez longtemps. Il y a beaucoup de recettes, notamment pour le foie gras. Et vous publiez la toute première recette connue de foie gras. Qui l'a inventée ?
Alors, c'est une recette romaine. C'est ce qu'on appelle l'Apicius, qui est un livre de cuisine. Mais enfin, il y a sans doute eu plusieurs auteurs. On prenait le foie gras, il dit de le trancher, de le faire tremper dans du garum. Alors le garum, c'est un peu l'ancêtre du gnocchmam, donc j'ai peur que ce soit un peu fort. Mais enfin, les romans en utilisaient beaucoup. Et puis ensuite, un certain nombre d'épices, la livèche, qui est du céleri, du laurier, dans une crépine et sur le grill.
C'est quoi déjà une crépine ?
Une crépine, c'est le porc, c'est l'estomac de porc.
D'accord.
Et ça évite que le foie est sec, donc ça lui permet de rester moelleux.
Mmh. Faites griller au grill et servez, c'est la fin de la recette.
La recette, ce sont des recettes très courtes.
J'ai les papilles qui se sont réveillées là.
Mais je pense qu'en diminuant la quantité de ce qu'ils appellent le garum, ça doit être très bon.
Mais alors je suis étonnée qu'à l'époque des Romains, déjà on mangeait,
on
savait fabriquer du foie gras.
Oui, oui, puisque les Égyptiens eux-mêmes avaient remarqué en fait que les oies qui étaient dans le delta du Nil, avant de repartir vers l'Europe, se gavaient. Parce qu'au départ, c'est un phénomène naturel, le gavage des oies. Bon, c'est nous qui le pratiquons, mais naturellement, l'oie se gave avant d'entreprendre un grand voyage. C'est pour ça d'ailleurs que le foie gras, qui était d'abord un foie d'oie, est d'abord un repas de fin d'année, parce que les oies se gavent à l'automne, généralement. Voilà.
Ah, donc c'est l'explication.
Voilà, c'est pour ça que c'est...
De la saisonnalité,
départ,
on va dire.
De la saisonnalité.
Mais le mot lui-même, d'ailleurs, a à voir avec le gavage,
oui,
c'est
le
ça
oui, parce que le foie, c'est dérive de ficus. Ficus, c'est les figues. Et on gavait les oies avec des figues.
Ah, d'accord.
Oui. Mais même
et ça, au temps des Romains.
Oui, mais d'accord. Même maintenant, on gave avec du maïs. Mais dans certains élevages, disons, de pointe, on incorpore un peu de figues.
Et aujourd'hui, la France, c'est le premier pays producteur et consommateur de foie gras.
Oui, 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 ouais. Tout à fait. On est même obligé d'en importer. On consomme 90% du foie gras consommé dans le monde. Alors aujourd'hui, on consomme aussi du foie de canard. Le canard n'a pas de saisonnalité comme l'oie. Il est plus rapide à engraisser, enfin à gaver plutôt. Et en plus, le foie de canard est moins gras, donc il répond davantage, je dirais, au canon de la diététique moderne.
Ça a un goût similaire ?
Voilà. Non, le goût est plus prononcé.
Pour le foie de canard.
Ah oui, que le foie d'oie. Il est moins fin, mais il est plus prononcé, c'est bon.
Allez, un autre grand classique du repas de fête, les huîtres. Et là aussi, on découvre dans votre livre que les Grecs, les Romains en raffolaient.
Tout à fait. Et je vais même vous dire, les Romains en faisaient venir, certains Romains en faisaient venir de la région de Bordeaux.
Et comment ils les transportaient ?
Alors, dans des jarres, on les décoquillait, évidemment. On les laissait un peu dégorger, on mettait du sel et on les transportait comme ça.
Mais vous dites évidemment, c'est plutôt surprenant.
Oui, non, mais.
On se dit, aujourd'hui, évidemment, c'est pas du tout le moyen de transport des huîtres.
Non, parce qu'à cette époque, on transporte beaucoup en jarre. C'est vrai, l'huile, le vin, toutes sortes d'aliments, c'est vraiment le mode de transport alimentaire le plus fréquent chez les Romains.
Et alors, si les Grecs et les Romains sont friands de ces huîtres, c'est pas seulement parce qu'elles sont délicieuses, c'est parce qu'elles ont des vertus.
Ah oui, on disait qu'elles étaient aphrodisiaques.
Et on disait, c'est plus valable aujourd'hui ?
Oh, dis-moi, je ne crois pas vraiment qu'elles...
L'important, c'est d'y croire, hein, voilà. Vous savez.
C'est vrai.
Tout est dans la tête, hein, dans ces choses-là, Sidonie.
Avec un peu de gingembre dessus.
Oui, voilà. Il faut ajouter, là, on est sûr.
Si vous,
on
vous
est
voulez
sûr.
Aussi.
On est sûr. Non, mais nous, on cherche des recettes. Hein, on est partant.
Aujourd'hui, on les consomme majoritairement, on va dire, crues.
Oui.
Les huîtres, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire.
Au Moyen-Âge, on les consommait surtout cuites, en civet. Notamment, ou bien on en mettait à l'intérieur des perdrix, des oiseaux qu'on farcissait. En fait, c'est surtout... à partir du XVIIe siècle, on commence à en consommer plus souvent cru, et surtout au XIXe siècle. Alors, le XIXe siècle, c'est vraiment la période où on découvre les huîtres, à tel point d'ailleurs que les huîtres sauvages s'épuisent, et que sous le Second Empire, on crée des parcs à huîtres.
Ah, c'est à cette époque-là.
Voilà.
C'est-à-dire ce qui existe aujourd'hui, ça commence quoi au...
Milieu XIXe, 1850-60, c'est à ce moment-là qu'on commence l'élevage des huîtres.
Aujourd'hui, vous conseillez de choisir quel type d'huître et de quelle taille ?
Alors, d'abord, on trouve surtout des huîtres creuses, puisque les plates avaient complètement disparu, elles ont été remplacées par des creuses. Donc, on trouve encore des plates, notamment, on trouve une petite production de belon très coûteuse, beaucoup plus chère hein, que les huîtres creuses. Les huîtres creuses, alors, elles sont numérotées. Les plus grosses ont 0, voire double 0, triple 0. Et les plus petites, c'est numéro 5. Alors, moi, personnellement, je dis, il faut prendre 2, 3. Quand c'est trop gros, on a du mal à la manger en
c'est
une fois.
C'est un steak voilà. D'huître, quoi.
Oui, oui, on dit même un pied de cheval pour les très grosses huîtres.
Ah oui,
eh oui, oui, oui.
C'est drôle.
Et quand elles sont petites, on n'en a pas le goût.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
À la maison, sur la route, au bureau, dans vos ateliers, dans les champs, où que vous soyez, vos témoignages sont chaque jour le cœur d'On est fait pour s'entendre. L'émission qui vous rassemble, c'est de 15h à 16h en direct sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Grâce à notre invitée Marilène Bellac, professeure d'histoire passionnée de cuisine, on découvre le repas gourmand à la française. C'est le titre de votre livre qui est publié chez Omnibus. Alors, on est dans les produits qui font l'excellence française. Et donc, je voudrais qu'on parle du pain. Les Français sont-ils des boulangers réputés depuis longtemps ?
Oui, à Rome, il y avait des boulangers gaulois. Enfin, ce n'est pas la France qui a inventé le pain. Là aussi, dans l'Antiquité, très loin, on voit des galettes, d'ailleurs avant même qu'on le vin, puis ensuite la levure. Mmh. Et donc, c'était simplement des galettes de céréales qui étaient cuites entre deux pierres ou sous la cendre. Mais c'est vrai que les Français se sont fait progressivement une réputation. Progressivement, je dirais même plutôt récemment, parce que sous l'Ancien Régime, le pain est la nourriture de base. C'est souvent du pain, enfin de la farine est mélangée avec du son, de mauvaise qualité. Et
Mais le pain, vous nous disiez c'était une galette avant. Quand oui. À partir de quand il prend sa forme actuelle ?
Un peu soufflé.
Oui.
Alors, Il a pris sa forme avec le levain très tôt. Hein. En fait, au Moyen-Âge, on faisait des pains au levain qui étaient de formes très diverses. La baguette elle-même, alors on fait des pains longs au XIXe siècle, mais on pense que la première fois on a vraiment une baguette, c'est autour de 1920.
Ah oui, c'est tard quand même.
À la suite d'une loi qui interdisait ou qui limitait très fortement le travail de nuit. Et du coup, il fallait trouver un pain qu'on pouvait faire en très peu de temps.
C'est drôle.
Et qui levait vite, donc non plus avec du levain, mais avec de la levure, et en plus qui cuisait rapidement. Et au départ, la baguette, qui connaît un engouement extraordinaire parce qu'elle est croustillante, c'est ce qu'on disait, est un pain de luxe.
Ah oui.
D'ailleurs, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, on trouve plus de baguette.
Et c'est pour ça qu'elle plaît, cette baguette, qui est pourtant moins nourrissante que du pain noir.
Alors,
mais elle croustille.
Elle croustille.
Elle est plus légère.
Voilà.
Voilà, donc on est déjà dans l'amorce de cette mode-là. Le pain, c'était l'aliment de base. Oh, il servait à quoi le pain au Moyen-Âge ?
Alors, d'abord, on le mangeait comme ça, et puis on disait c'était un tranchoir. C'est-à-dire, les gens qui avaient de la sauce, des viandes, etc., posaient le pain comme une assiette, au fond, et versaient dessus la nourriture. Bon, on le trempait aussi dans la soupe, ou plutôt on trempait la soupe, c'est-à-dire qu'on mettait le pain et on versait dessus la soupe.
Marie-Hélène Bellac, dans votre repas gourmand à la française publié chez Omnibus, vous nous proposez évidemment la fameuse dinde. Bon, ça, c'est typiquement américain.
Ah oui, puisque d'abord, c'est la seule viande qui a été rapportée d'Amérique. On a rapporté toutes sortes de légumes du Nouveau Monde, mais la dinde, c'est la seule viande. Enfin,
ramenée d'Amérique par
les conquérants espagnols dès le XVIe siècle.
D'accord.
Mais c'est vrai que l'histoire de la dinde est attachée aux pères pèlerins qui au XVIIe siècle ont émigré, sont arrivés en Amérique, n'avaient rien pour se nourrir, et les Indiens leur ont appris la culture de la terre et leur ont appris à élever les dindes. Et en reconnaissance, les pères pèlerins ont décidé une action de grâce, c'est ce qu'on appelle le Thanksgiving, la fête qui a lieu le 4e jeudi de novembre aux États-Unis, où on mange traditionnellement la dinde avec des patates, avec une sauce à l'airelle, qui est devenue le plat emblématique. Ce n'est pas que français.
Oui, c'est un symbole finalement de l'entente entre les colons et les Indiens.
Tout
ce
à
plat.
Fait, complètement.
Il n'est pas neutre, il a un sens même presque politique. Dans l'histoire américaine.
Il y a un morceau à ne pas rater dans cette fameuse dinde quand on la dévore, c'est lequel, Marie-Hélène Bellac ?
Alors c'est le croupion. Le croupion qu'on appelle d'ailleurs le bonnet d'évêque, parce que vous regarderez la prochaine fois que vous aurez une dinde, hein, vous verrez, il est relevé et il a donc la forme effectivement d'un bonnet d'évêque. C'est un peu gras, hein, soyons clairs. Ce qui est à mon avis encore meilleur, ce sont les solilès, c'est-à-dire ces deux morceaux qui sont de part et d'autre de la carcasse, qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les volailles et qui sont particulièrement moelleux.
Et il y en a aussi dans la dinde.
Il y en a aussi dans la dinde.
Attends, parfait. Alors moi j'adore les marrons. Et on mange souvent des marrons avec de la
traditionnellement,
dinde.
Traditionnellement, oui.
Vous nous conseillez de les cuisiner de quelle façon les marrons ? Il y a plein de façons de les cuisiner.
Il y a plein de façons. Moi je trouve que dans la dinde, c'est bien de les ajouter à la farce, c'est-à-dire avec la chair à saucisse, avec du jambon cru, une petite cuillère d'Armagnac ou de Cognac. Si on a un petit peu de truffe, c'est encore mieux. Et d'en remplir donc la bête avant de la cuire. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'on peut faire aussi des marrons grillés tout autour. Mais je trouve qu'à ce moment-là, c'est un petit peu sec. Et donc, j'aurais tendance à côté à proposer plutôt une purée moitié pomme de terre, moitié céleri rave, qui donne une purée plus allégée, plus agréable avec la dinde qui a quand même une chair un peu sèche.
Oui, elle aussi. Marron et châtaigne, c'est la même chose ?
Alors, le marron est une châtaigne. C'est une catégorie de châtaigne, mais
D'accord.
on réserve le nom de marron à une châtaigne qui ne comprend en fait qu'un fruit à l'intérieur de la bogue, alors qu'on utilise souvent le nom de châtaigne pour d'autres variétés où vous avez plusieurs fruits qui sont séparés par des membranes. Donc, pas très pratique pour la consommation.
Alors, avant de passer au fromage, un mot des patates, les pommes de terre dont l'image a longtemps été associée à la pauvreté. Il y a un homme qui va changer cette image. Qui est-ce ?
C'est Parmentier. Parmentier qui était un pharmacien qui avait découvert la pomme de terre alors qu'il était en Prusse, prisonnier. Et il s'est dit que pour que les gens aient envie de manger des pommes de terre, qu'elles ne soient plus une nourriture de pauvres, il fallait attirer les riches. Donc, il a organisé des repas. Il a offert un bouquet de fleurs de pommes de terre à Marie-Antoinette. Et surtout, il s'est fait allouer un grand terrain dans la plaine des Sablons qu'il a fait garder par des soldats. Donc du coup, si on gardait ces pommes de terre, c'est qu'elles devaient avoir une valeur.
Elles étaient précieuses.
Voilà.
On les a toujours appelées comme ça d'ailleurs, les pommes de terre ?
Oh, alors on a dit les petites truffes aussi. Et puis, il y a beaucoup de noms locaux. Parce qu'au départ, elles sont petites, grises, un peu rabougries. D'ailleurs, pas très bonnes. Hein. Les premières pommes de terre, les premières variétés ne sont pas très bonnes.
Marie-Hélène Bellac, vous nous conseillez de choisir quel type de pommes de terre pour Noël et de les cuisiner, les accommoder comment ?
Alors, moi, je trouve que... D'abord, moi, j'aime beaucoup. Il y a une variété qui est utilisée pour énormément de recettes, qui est la Belle de Fontenay. Finalement, même, vous savez qu'aujourd'hui, les grands chefs ne font plus la purée avec ce qu'on appelait avant la pomme de terre à eau, aqueuse, ils utilisent au contraire des variétés qui sont réputées à chair ferme. Donc moi, je trouve qu'une des recettes très belles, c'est ce qu'on appelle le gâteau à nappe, qui a été mis au point au 19e siècle, où vous coupez vos pommes de terre en tranches extrêmement fines, vous les imbibez bien de beurre, il faut beaucoup de beurre, donc un bon beurre, vous les mettez dans un moule...
Tout le monde salive dans le studio.
Dans un moule creux, un moule à charlotte, excusez-moi, je vais être plus précise.
Ouais.
Et à la fin,
ça
vous
ressemble
avez
à un gâteau, en fait.
Un gâteau de pommes de terre, tout doré, mais doré, c'est beau, et tendre à l'intérieur, moelleux, c'est une merveille.
Bon, je suis sûr que vous avez...
En plus, ça peut attendre un peu.
Ah, c'est bien ça. Je suis sûr que vous avez encore un peu faim, non ?
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Un repas gourmand à la française, c'est ce que l'on vous propose ce soir dans la curiosité. C'est aussi le titre du livre de notre invitée Marie-Hélène Bellac, livre publié chez Omnibus. Alors on y trouve des recettes, l'histoire, des produits, des reproductions de tableaux aussi. Salades et fromages sont regroupés dans un même chapitre. Est-ce qu'ils ont toujours été associés d'ailleurs dans l'histoire de la gastronomie française ?
Non, pas du tout. On mangeait souvent la salade toute seule, soit à la fin du repas, soit au début. Et disons que c'est même une pratique très récente, je dirais, qui date du 20e siècle, parce qu'aujourd'hui, quand vous servez, par exemple, du fromage en assiette, au restaurant, on vous met toujours un petit peu de salade avec. Donc, oui. C'est devenu une pratique habituelle.
La France, c'est vraiment le berceau du fromage ?
Alors, elle n'a pas inventé le fromage, là non plus.
Là
c'est
non
comme
plus.
Pour le pain. Bon. Puisqu'en fait, dès qu'on a pratiqué l'élevage, on a eu du lait. Les hommes se sont aperçus que le lait, si on le laissait comme ça, eh ben, il caillait. Donc, il suffisait de le mettre dans une forme, d'où le mot fromage d'ailleurs, de le saler et de laisser sécher. Et ça devenait un fromage.
Ah, attendez, vous allez trop vite. Mot fromage. Ça vient de quoi ?
Ça vient de la forme.
Ah d'accord, la forme dans laquelle
on mettait le lait, c'est un moule.
Ah d'accord, ok.
Voilà, c'est un moule dans lequel on mettait le lait pour qu'il s'égoutte et il caille et vous mettez du sel et en fait vous avez un début de fromage.
Ça fait une jolie fromme.
Voilà, d'accord, voilà. Ça y est, j'ai compris. Alors si la France n'a pas inventé le fromage, son industrialisation doit beaucoup à un Français.
Oui. Alors, pas seulement son industrialisation, excusez-moi, mais là, j'arrête
allez-y.
Quand même. Non, la France a inventé énormément de fromages au fil du temps. Oui. C'est vrai que c'est quand même une terre de prédilection. Alors, aujourd'hui, on dit qu'il y en a entre 250 et 350, voire davantage. Et c'est vrai qu'on est quand même le pays le meilleur pour le fromage.
Ah,
alors, il y a eu une industrialisation, mais alors permettez-moi de vous dire que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, parce qu'il y a d'autres pays qui font énormément de fromages. Vous savez que le premier producteur du monde de camembert, ce n'est pas la France.
Non.
Ce sont les États-Unis.
J'y crois pas.
Mais
si. C'est bon ?
Bah non, c'est pas du camembert,
je l'ai cru. Je disais industrialisation, mais peut-être que peut-être que c'est pas le bon mot. Je pensais à Pasteur.
La pasteurisation a permis de développer énormément la production. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plus grande partie du fromage qu'on nous propose, notamment dans les grandes surfaces, est du fromage fait à partir de lait pasteurisé. Ou thermisé, on dit maintenant, oui, porté à une température moins élevée, donc ça détruit moins, dit-on, les goûts.
Marie-Hélène Bellac, on est très, très créatif en termes de fromage en France. Il y en a combien de variétés recensées aujourd'hui dans notre pays ?
Alors, je disais entre 365. C'est très difficile.
On peut continuer d'en inventer, de
voilà, il y a beaucoup de fromages locaux. Vous avez des productions, des fois, qui sont vraiment très, très locales. Je pense notamment pour les fromages de chèvre. Les fromages qui sont produits en petite quantité.
Mmh. Allez, on termine par les desserts. Tiens, d'ailleurs, depuis quand ? Depuis quand on dit cette phrase ? On termine par les desserts ?
Par les desserts. Alors, disons 17e siècle. Mais au 12e siècle, déjà, on parlait de la desserte. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, on enlevait la nappe, on enlevait les restes et on mettait des douceurs ou certains mets salés, parce qu'autrefois, on mélangeait le sucré et le salé. Mmh. Et puis, peu à peu, c'est le sucré qui s'est imposé. Et vous savez, aujourd'hui, dans les grands restaurants, souvent, au dessert, on vous change les serviettes. Et même chez vous, vous avez tendance à avoir peut-être un service de vaisselle un peu différent pour le dessert.
C'est vrai.
Et puis vous savez, vous mettez le gâteau, mais vous mettez aussi des petits fours, des choses comme ça. Et ça rappelle cette pratique en fait.
Alors au dessert, je vous propose de déguster une bûche. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui,
ça, c'est une tradition francophone?
Alors c'est une tradition, oui, on ne sait pas trop si la bûche a été inventée par un pâtissier parisien ou par un pâtissier lyonnais. En tout cas, c'est au 19e siècle, pardon, comme beaucoup de gros gâteaux. Et l'idée, c'était de rappeler à la ville, puisque c'est en ville qu'on l'invente, ce qu'on n'avait plus, c'est-à-dire à la campagne, la bûche dans la cheminée qui brûlait le soir de Noël. D'ailleurs, vous savez que sur les bûches traditionnelles, vous avez de la crème et puis on dessine un petit peu des rayures pour donner l'apparence d'une bûche de bois.
Oui, puis parfois, il y a des nains qui
champignons en meringue pour évoquer la forêt.
Parce qu'en fait, on mettait quoi? La tradition, c'était de mettre une énorme bûche dans la cheminée,
et puis souvent de faire des prières autour, d'apporter des friandises. Et donc, à la ville, c'était difficile, voire impossible. D'où cette idée de relayer par le dessert.
Vous consacrez aussi, Marie-Hélène Bellac, un chapitre aux fruits de Noël. Le fruit de saison, c'est quoi? La clémentine?
Oh, la clémentine, ouais. Oui. Oui, on peut dire aussi l'ananas.
Mais l'ananas, voilà, il vient de loin quand même.
Il est un peu loin. Donc, la clémentine, surtout qu'il y a la clémentine de Corse. Donc, c'est vraiment une production de chez nous. Mais la clémentine, c'est un fruit récent qui a été mis au point en Algérie par un père qui s'appelait le père Clément,
oui.
Et qui a fait donc un assemblage, enfin elle est née de l'orange et de la mandarine, avec un gros avantage, pas de pépins.
Ah oui,
c'est
ça,
son
c'est
succès.
Sûr. Ça c'est bien. Avec
pour
tout
un Noël
ça,
sans pépins, c'est pas mal ça.
Oui, on boit quel vin avec tout ça?
Ça dépend ce qu'on mange. Alors, ça dépend avec des bons vins, c'est sûr.
Ah bah oui.
Je veux dire, alors, comme on ne peut pas parler de tous les vins, je veux dire une chose. Avec les fromages, ne servez pas du vin rouge systématiquement. C'est
Et
une
oui,
erreur. La plupart des fromages se marient mieux avec des vins blancs.
C'est vrai.
Oui.
Et vous publiez aussi dans votre livre les bonnes températures,
oui,
pour servir les vins. Mmh. Bordeaux rouge autour de 18.
Oui. Alors, à l'époque,
Bourgogne,
on disait... Un peu moins,
ah oui.
16. Mais on disait chambrer un vin, mais parce,
oui,
qu'il faisait frais dans les maisons.
Bien sûr.
Aujourd'hui, on dit chambrer, on croit qu'on doit servir le vin chaud. Pas du tout. 18, c'était ce qu'on appelait chambrer.
Donc, il faut quand même faire un peu rafraîchir son vin, parce que,
oui,
nos maisons, elles sont souvent plutôt
plus
à 20 ou 21 degrés,
oui,
qu'à 18.
Merci beaucoup, Marie-Hélène Bellac, pour
c'est
ces
moi.
Régalades. Beaucoup d'autres histoires
trop bien.
Et des recettes à découvrir.
Dans votre repas gourmand à la française, et c'est publié chez Omnibus.
Je vous l'emprunte.
Bonne cuisine.